L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 269e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Et comme toutes les semaines paires, un dimanche sur deux à 19h, nous sommes là pour vous expliquer et vous vulgariser l'actualité des logiciels libres et des libertés numérique. Et
on va s'amuser aujourd'hui
avec Pierre.
Bonsoir Pierre, qui a la voix cassée.
Bonsoir Pierre.
C'est bien parti aujourd'hui, ça va être nickel.
Pile poil. Et comme de coutume, nous allons commencer avec des actualités internet et vie privée. Alors, on vous avait parlé donc du DSA, du Digital
Service Act.
Et on vous avait narré dans une précédente émission que les principaux sites pornographiques avaient tenté de filouter un petit peu, c'est un petit peu le concept de ce genre d'entreprise, vous me direz aussi. Nous ne sommes pas au-delà du seuil requis.
30 millions de...
Ouais, des 30 millions, nous ne sommes pas au-dessus du seuil requis pour être assujettis au Digital Service Act, sauf que l'Union européenne leur a demandé de revoir les calculs, et donc plusieurs de ces sites, on les citera pas ici, on ne va pas faire de la pub pour ces sites-là, sont donc assujettis, et ont par contre déposé une plainte contre l'Union européenne devant le tribunal de l'Union européenne. Pour essayer de se soustraire à leurs obligations. Alors, un des points d'achoppement reste sur la définition d'un utilisateur actif. Bon, c'est, pour un site pornographique, il faut dire que...
Ça va être compliqué.
Puis, il y a aussi un petit côté cocasse à définir ce que c'est qu'être actif. Donc, le site le plus célèbre annonce, lui, 32 millions de destinataires actifs. Est-ce que c'est des personnes qui auraient un compte, par exemple, je ne sais pas. Donc, un des points aussi sur lequel ils voudraient échapper, c'est les mesures que contiennent le DSA. Une des mesures, c'est la protection des mineurs, ce qui les obligerait donc à faire du contrôle de l'âge des utilisateurs. Alors, on sait qu'en France, il y a déjà eu...
Alors, attention, et pas que de l'âge, pas de l'âge seulement des utilisateurs, mais aussi des acteurs. Ah, parce que là aussi, ils ont ça augmente.
Pour moi, c'est pas lié au DSA. Ça, de toute manière,
ça augmente en fait le besoin de contrôle d'âge, non pas sur la diffusion de contenu pornographique, mais les protections des détournements de mineurs, et ça crée des nouvelles règles. C'est là-dessus où ça va les emmerder encore plus, c'est que ils vont devoir démontrer qu'ils contrôlent activement le contenu.
Et
ça va être fun.
Ça touche également, je dirais, à la source de revenus, c'est-à-dire la publicité, puisque ils doivent faire preuve, les entreprises qui sont donc soumises au DSA doivent faire preuve de transparence quant aux annonceurs qui donc payent pour diffuser de la publicité sur le site.
Fun.
Avec des entreprises qui font ça, seraient sans doute ravies de savoir quelles entreprises se cachent précisément derrière les annonceurs de ce genre de plateforme. Bref, encore s'amuser, donc on vous tiendra au courant des avancées donc, de cette bataille juridique devant le tribunal de l'Union européenne. HP, tiens, oui, on a déjà parlé en plus là, des petites, comme dirait Pierre, puputeries.
Ah, mais celle-là, elle est quand même
de
cocasse.
De Hewlett-Packard, concernant donc, la limitation du nombre d'impressions par utilisateur. Alors, l'imprimante sur abonnement, ça, alors, on n'avait pas parlé ça déjà, parce que pour
pas,
moi...
Pas trop, mais là ils sont allés encore plus loin.
C'est un sujet qui a déjà fait débat, pour moi. C'est pas une nouveauté.
Alors. C'est pas une nouveauté, mais là, ils sont allés encore plus loin. C'est nouveau. Là c'est vraiment, c'est un nouveau service d'HP. Donc c'est pour ça, j'ai un doute sur le fait qu'on ait vraiment pu en parler de ce point-là. On avait peut-être déjà parlé avant qu'ils le mettent en place et qu'on voit la réalité des choses. Maintenant, on le voit. Et donc, désormais, grande nouvelle, plutôt que d'avoir à payer 50€ pour acheter une imprimante et 100€ pour acheter l'encre tous les 6 mois, et si vous regardez au volume, votre encre coûte plus cher qu'un parfum de luxe. Et donc, plutôt que de devoir faire ça, parce que c'est vrai que c'est pas intéressant, eh bien, vous pouvez vous contenter seulement de payer 7€ par mois pour avoir le droit d'imprimer 20 pages sur une imprimante que HP va vous louer.
Alors, t'as déjà essayé d'imprimer avec du numéro 5 de Chanel ?
Non, c'est peut-être, ça peut être sympa. Et donc.
L'entre sympathique, ah peut-être, parce qu'il y a peut-être. De l'alcool. Ça ouais, peut marcher, peut-être. Effectivement.
Mais donc, voilà, donc déjà d'un point de vue économique, moi je suis relativement sceptique. J'avoue, une imprimante que je ne possède pas, ça me trouble. Et là où c'est encore plus fun, c'est que. Ils ont décidé plutôt que d'avoir une imprimante avec un firmware conçu pour qui va compter les pages, etc., et brider, plutôt que de faire un développement, ils ont décidé de contraindre et de dire bah, l'imprimante doit être connectée en permanence à Internet. Et toutes vos impressions sont transmises à HP. On va surveiller tout ce que vous faites sur l'imprimante. C'est comme ça, on surveille que vous ne dépassez pas les cadres du forfait. C'est vrai que vous n'avez aucune donnée à revendre sur l'utilisation des utilisateurs derrière et sur la pub, et pour faire de la publicité du profilage. Aucun problème. C'est un service américain. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas de RGPD.
Le contenu du fichier qui est imprimé n'est pas envoyé par HP, à HP, officiellement.
Ouais, alors attends.
J'espère.
Oui. Moi, je t'avoue, j'ai. En général, c'est. Ah, mais ouais, mais on m'envoie tout, des fois, pour faire du diagnostic à distance au cas où, tu vois?
C'est courant. De statistiques.
Exactement. Je te rappelle que, on en a parlé dans cette émission, des employés de Tesla ont été identifiés comme ayant regardé des vidéos enregistrées dans des garages par les voitures en question. C'est sans consentement, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle.
Voilà. Donc la preuve que bon, l'Union européenne a ses défauts, mais la réglementation européenne a aussi des aspects
protecteurs. On en aura d'autres, des exemples comme ça. On en a plein aujourd'hui.
Il y a les élections européennes le 9 juin et on ne fait pas de propagande électorale, mais...
Votez bien.
Voilà, votez pour des gens qui veulent...
Votez bien.
Votez pour des gens qui travaillent au Parlement européen.
C'est ça. Mais un emploi fictif,
si possible.
Un emploi fictif est-il un travail?
Notre avis, notre point de vue serait de voter pour des gens qui défendent les libertés publiques de manière générale, pas que numérique, mais les libertés publiques au Parlement européen. Et on fera pas de...
On n'a pas le droit, malheureusement, on n'a pas le droit, c'est nul. C'est fin d'émission politique. Bref.
On va parler des bienfaits du RGPD en parlant de ce qui se fait ailleurs qu'en Europe par Google, qui rajoute plus de spam et plus d'intelligence artificielle. Pierre parlerait d'hallucinations artificielles.
Exactement.
Dans ses résultats de recherche.
Voilà, donc, alors, il y a une partie qui va arriver en Europe parce que ils modifient la boîte noire, les algorithmes de recherche, mais il y a une différence. Alors, ça a été bien expliqué dans des articles sur des médias grand public comme Le Monde ou autres, où ils ont montré l'impact du DSA et du DMA sur la page de recherche de Google. Et là, on continue. Google, de son côté, aux États-Unis, ils augmentent l'importance de l'intelligence artificielle pour trier, retrouver des éléments. C'est en fait leur but, tu comprends, c'est d'améliorer la qualité de la recherche en utilisant toute la puissance de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que, bon, déjà, c'est un jeu de chat et de souris que Google fait contre les spammers, ceux qui cherchent à optimiser à faire du SEO. Puis, l'intelligence artificielle, encore une fois, comment vous démontrer que ça ne peut pas aggraver les résultats puisque c'est un algorithme par nature, par essence, imprévisible. Puisque vous ne l'avez pas conçu pour être vous n'avez pas conçu l'algorithme, vous avez créé l'algorithme artificiellement en lui apprenant des choses, mais vous ne pouvez pas être certain de ce qui a été appris. Et donc, Google va altérer ses résultats de recherche avec ça. Et alors, oui, voilà, ça va être vachement mieux et tout. Alors, Google a déjà notifié des sites web. Il y a des sites web... Alors, j'ai pas eu le temps de creuser sur tous les sites, mais il y a des sites web qui ont reçu des demandes un peu cheloues pour dire « Non, mais votre contenu, ça va pas. » Ah bon ? Sans raison. Parce que l'IA s'est trompée dans la classification. Puis, c'est bien connu, il y a toujours quelqu'un chez Google pour répondre à la demande du premier site web venu. Ça va être bien parti aussi.
Vous imaginez l'IA associée à la vidéosurveillance à reconnaissance faciale ?
Ça s'appelle les Jeux Olympiques 2024. Ça
Merci
va être fantastique.
Pierre.
On y sera. Non.
Ah bon, on y sera. Hein. Les Jeux Olympiques auront
non,
lieu.
Non,
l'émission ne sera. On sera en vacances. On a une émission de vacances.
Mais
on est à 500 mètres d'un des sites des Jeux Olympiques.
On pourra voir les caméras en live. Ça va être trop bien.
C'est magnifique. Non, les GAFAM, je demande le F pour Meta.
Oui, on
les a pas.
Ils ont changé de nom.
Hein. Alors, qui veut donc monnayer votre vie privée
Mais c'est déjà fait ça.
Enfin,
qui veut vous faire payer. C'est ça. Meta, ça fait un certain temps qu'ils ont mis un message en Europe.
Ta vie privée où tu payes.
Soit tu nous donnes ta vie privée en financement, soit tu nous donnes du sous-sous en financement à hauteur de 4 13-14 euros par mois.
Et l'UFC Que Choisir a donc décidé de porter plainte. On sait bien que des...
Des petites associations locales.
Non, mais des associations, on va dire.
De Facebook.
De consumérisme plus généraliste.
C'est
là,
ça,
c'est
oui.
Le genre de choses qui étaient plutôt portées par la Quadrature du Net. C'est
ou
bien
qu'il y a de ses qualités,
qui est un petit peu, alors même si elle a une certaine visibilité médiatique, reste quand même, je dirais, une asso qui est une certaine niche, hein, sans vouloir leur faire offense. Alors, l'UFC Que Choisir a une portée, une audience qui est quand même beaucoup plus large. Donc, le Conseil d'État, la Commission européenne, pardon, se penche également sur cette alternative, Pierre.
Les deux, oui, les deux. C'est le même sujet. Et donc, la Commission européenne, c'est sous l'impulsion notamment de NOYB, association qui porte plainte. Et donc, c'est un groupe. Alors, et justement, tu parlais de l'importance d'UFC Que Choisir. UFC Que Choisir fait partie de NOYB, qui est un groupement d'associations européennes de consommateurs. Et donc, l'UFC Que Choisir relaye au niveau national, forcément, ces mouvements. Et. La défense des libertés numériques, là, ça défend les consommateurs. Je dis vous parce que moi, je ne suis pas sur aucune de ces plateformes-là. Vous êtes pris pour des cons.
Tumblr et WordPress vont s'associer à Midjourney OpenAI pour vendre vos données. On utilise quoi déjà comme CMS pour notre podcast?
Alors, attention, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Il ne faut pas confondre WordPress et WordPress. Ouais. Ce sont deux choses, mais ce n'est pas les mêmes. C'est très chiant.
Il faut distinguer l'homme de l'artiste.
Et ouais, on est pas loin de ça, ça m'emmerde. Donc, petite explication très rapide. Parce que Tumblr, je sais plus, c'est un site de photos, je crois, en ligne.
Donc, oui, où les gens peuvent... mais assez en perte de vitesse.
Assez en perte de vitesse, ouais. Depuis qu'ils ont banni le porno, c'est ça.
Ouais. Bon, Instagram se porte très bien sans le porno. Hein,
oui, mais eux, ils avaient du porno Tumblr et ils l'ont banni. C'est ce qui leur a fait du tort.
Mais quand tu mets les doigts dedans... Enfin, je...
Oui. Passons. Et WordPress, par contre, c'est peut-être un peu moins connu parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement visible. WordPress, c'est à la fois le moteur qui a servi à créer des millions de blogs à travers le monde, mais aussi des tas de sites web. Alors nous, notre site web, le site de l'Écho des Nous, est fait avec WordPress, mais même des sites institutionnels, on va dire, ou des sites d'entreprise, il me semble, je ne sais plus, il y a un groupe de restauration mondialement connu qui a eu WordPress pour son site web, des trucs comme ça, quoi. On peut faire de tout avec WordPress. Et WordPress, c'est aussi... Il faut faire l'artiste, WordPress. Et maintenant, on va parler de l'homme WordPress. En fait, maintenant, c'est une entreprise qui est derrière le développement de WordPress. WordPress est un logiciel libre, mais une entreprise derrière le développement de WordPress. Et leur business model, qui n'est pas si dégueulasse que ça, c'est dire, bah, vous voulez faire tourner un WordPress chez vous, mais vous ne voulez pas vous embêter à l'installer, à gérer un serveur, etc. Venez chez nous, vous nous payez... 3, 4, 5 dollars par mois, et puis vous avez votre WordPress et vous ne prenez pas la tête.
C'est le modèle historique des moteurs de blog. Hein.
Alors, exactement.
Il y a 15 ans, c'était ça. C'est soit tu l'auto-hébergeais, soit tu créais chez Blogspot, WordPress, justement, ou je ne sais qui.
Et donc, Tumblr et WordPress, donc les deux actuellement, ont commencé à vendre les données de leurs utilisateurs pour alimenter des outils d'IA de Midjourney. Voilà. Vous avez signé pour ça, évidemment. C'était inclus. Pas de problème. Puis c'est bien connu que les modèles des...
Vous avez signé avant qu'OpenAI existait, ça c'est fort.
C'est fort, c'est très fort. Et puis bien évidemment, c'est bien connu que les modèles d'IA ne vont pas ressortir les documents originaux quand on les tord un peu le bras.
Dans les GAFAM, je demande le A, le premier.
Ah, Papel.
Qui modifie Curl, donc, qui est un outil soit rarement utilisé directement, mais oui. Souvent appelé sous forme de fonction. Donc, quand vous connectez à une URL, à un site internet, quand vous cherchez quelque chose sur internet à travers un programme, souvent vous utilisez Curl.
Voilà, en dehors du navigateur web. Et donc, Curl est un petit outil libre qui est probablement l'un des logiciels libres les plus installés au monde. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont emblématiques et pas connus du tout parce que Linux. Connaît au moins de nom, puis voilà, on sait que Android c'est Linux. Curl, c'est l'outil vraiment, c'est l'un des outils planqués. Et donc Curl, en tant que logiciel libre, est installé par défaut, alors je crois même sous les Windows modernes maintenant, et par défaut sur macOS. Et la petite blagounette, c'est que Apple a rajouté une fonctionnalité dessus. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais grosso modo, quand on se connecte sur un site web, en HTTPS, on a un certificat qu'on reçoit pour dire, ben voilà, le site a été émis par Echo des Gnous. Par exemple. Et donc, on peut dire à Curl, alors tu te connectes à ce site, mais tu t'assures que le certificat est bien dans cette liste de certificats-là de nous qu'on connaît. C'est une fonctionnalité de sécurité assez élémentaire. Eh bien, Apple a décidé de modifier cette mécanique pour dire Si le certificat n'est pas dans cette liste, mais qui est quand même dans la liste connue par le système, donc par Apple, bah dans ce cas, c'est bon, ça va.
Apple peut faire du mal in the middle un peu comme ils veulent.
Exactement, c'est un peu le problème. Et Apple ne considère pas ça comme une faille de sécurité. C'est-à-dire que, pour traduire en termes...
Apple peut signer ecodegnou.org et puis...
Voilà, c'est... Apple pourrait très bien faire un site imitant ecodegnou.org et le fait qu'on soit en HTTPS ne protégera pas des gens qui accèdent à travers Curl ou n'importe quel programme en dérivant sous macOS.
C'est un exemple. Hein,
je pense que Apple n'en a rien à foutre de notre tronche, mais c'est gênant et ça pose encore un autre problème. C'est une problématique dont on ne parle pas trop parce que c'est de la sécurité, c'est assez avancé quand même. C'est comment on garantit que le logiciel libre qui est diffusé voilà, librement, comment on garantit que les copies qui en sont faites et les distributions qui en sont faites ne sont pas altérées au point de changer drastiquement et sans documentation ce genre de comportement.
Biométrie, c'est la...
Oui,
c'est quand même souvent vendu comme une méthode infaillible. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus, peut-être il y a 10 ans, peut-être même 15 ans, je me souviens que le Chaos Computer Club avait réussi à reproduire les empreintes digitales.
Beaucoup moins longtemps que ça. Ah, Angela Merkel.
Angela Merkel, à partir d'une photo haute définition d'Angela Merkel.
Ils ont fait ministre de la Défense allemand aussi, il y a bien moins longtemps que ça.
Je me souviens d'Angela Merkel il y a... c'est pas tout récent.
Et donc, l'ANSI a refait un rappel, donc il y a eu des rapports et tout, et je voudrais juste en parler très rapidement de ça. L'ANSI a fait un rappel pour dire, alors, la biométrie, c'est bien, c'est un facteur supplémentaire. Mais lorsque c'est le seul élément d'authentification sur un site ou une application, ben là, ça devient un problème parce que imaginons que quelqu'un pirate votre empreinte digitale. Comment tu fais pour changer ton empreinte digitale ?
Pas évident. Hein.
C'est pas facile. J'ai déjà essayé à la site, ça pique un peu au début, donc j'ai pas continué. Mais non, il y a un vrai...
J'ignorais les pans de ta vie, Pierre.
C'est ça. Non, mais...
Pour moi, je t'ai connu en 2005. Enfin, la vie secrète de Pierre ne nous regarde pas.
Non, mais voilà, comment tu fais ? C'était de la colle, c'est pas fait exprès, monsieur. Non, mais c'est un vrai problème, les facteurs d'authentification biométrique. Soyons honnêtes, lorsqu'on s'authentifie sur une application, on n'envoie pas notre doigt physiquement au serveur distant, on en envoie une copie numérique. La copie numérique, ça se duplique, ça se clone, ça se recrée. Parce que le numérique est intangible, le numérique est copiable. C'est tout.
C'est pour moi, quand j'utilise par exemple, mon smartphone, quand je m'authentifie avec mon empreinte digitale, pour moi, c'est le téléphone qui envoie le jeton comme quoi je suis authentifié.
Alors, ça dépend de l'application, ça dépend du contexte. Ça dépend.
Pour moi, la vérification d'empreinte digitale, la vérification biométrique en général, elle reste au niveau du composant qui s'assure de la sécurité. Après, lui, il dit OK, pas OK, mais c'est pas lui qui n'envoie pas sur le réseau des données biométriques.
Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Parce que donc là, il y a eu des attaques, notamment très organisées au Vietnam ou autre. Et jusqu'à maintenant, les attaques sur la biométrie, c'était des attaques individuelles, donc ça ne concernait pas la personne lambda. Là, au Vietnam notamment, il y a une attaque qui a ciblé plus de 50 millions de personnes. Ça commence à être de l'attaque de gros volume. Et ils ont piraté, en fait, ils ont, par des applications bidons, ils ont réussi à recopier les empreintes digitales. Et il suffit que la méthode d'authentification ait des failles, en fait.
Une des conclusions, c'est utilisez pas la biométrie pour n'importe quel...
Utilisez pas la biométrie pour n'importe quoi et n'utilisez pas que la biométrie.
Utilisez quand même pour des applications et des...
Utilisez à bon escient. Et ça c'est une notion qui est difficile à faire.
Des entreprises de confiance, bon, votre banque, c'est un genre de choses, mais sur des applis officielles.
J'ai du mal à faire confiance à ma banque. Hein. Moi, j'ai des banques françaises, doucement.
Merci Pierre. On se retrouve avec des nouvelles logiciels libres, bien évidemment, et un petit peu de matériel. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter As Well The Longest Day of Your Life. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre 5campus.com.
Day of your life. doesn't have to go your way. You can't see. Grit and pain and strife. I can go on and on for days. The patience is the way. And the next step's not so clear. Patience in and out of here. And our faith is wasted all away. Limited to space and free. Unconsciousness is beyond me. And the sirens keep us all the way. Alone, barricaded style. He's lifted to his afterlife, free of the burden words all day. Oh, but now.
C'était As Well, The Longest Day of Your Life. C'est l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. Et c'est la deuxième partie des actualités. Pierre, tu nous fais une pré-dégicalisation, parce qu'aujourd'hui, pour le prix d'une seule émission, nous avons deux dégicalisations. Mini-dégicalisation, faut que...
tu vas devoir le dire deux fois.
Je suis programmé pour deux fois dégicalisation par émission et après, non, c'est plus possible.
L'écodégno est remboursé par la Sécu pour Alexandre, ça compte en séance d'orthophonie, vous n'étiez pas au courant.
C'est sympa. Requiem pour Android, fin de RCS, Play Integrity. Pierre, je te laisse poursuivre.
Oh, monde de merde.
Voilà, j'ai un jingle pour la dégicalisation désormais. Tous ceux qui n'auront pas reconnu George Abbott Paul, vous êtes priés de revoir vos classiques. La classe américaine. Parlons de Android. Android est-il mort ? Moi, de là, les dernières actualités que j'ai lues, j'étais déjà pas loin de penser que Android, en tant que solution libre, ouverte, tout ça, c'était du gros pipeau. Mais là, maintenant, ça se confirme et je l'ai encore plus mauvaise quand je me suis rendu compte des conséquences que ça avait pour ma poire, moi qui suis même pas utilisateur d'Android. Donc, on va parler de deux choses. Je vais commencer par la deuxième. On va parler un petit peu de Play Integrity, qui est une jolie chose que je ne connaissais pas.
Moi non plus.
Moi non plus. Comme tu dis, c'est que, alors, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop...
Et en plus, dans ce sens, tu connaissais pas, et en plus, t'as pas compris.
Non, mais j'ai pas trop compris
bien, cette dégicalisation.
Quand est-ce que ça a été introduit, je t'avoue, j'ai pas creusé parce que j'étais juste dégoûté quand j'ai vu ça. On va déjà commencer par la définition, qu'est-ce que c'est un téléphone qui a été routé ? Donc, le root sur un système Linux, sur un système Unix, c'est l'administrateur, c'est celui qui contrôle la machine. Et sur un téléphone typique, que ce soit un Android ou un iPhone... Le root, ce n'est pas vous, c'est Google ou Apple. Vous n'êtes pas maître de votre téléphone. Point. Ce n'est pas vrai. Je pouvais le dire dans n'importe quelle langue. Vous pouvez vous convaincre comme vous voulez, faire de l'hypnotisme, je m'en fous. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas maître de votre téléphone. C'est Apple et Google qui le sont. Pour beaucoup de personnes, particulièrement les libristes, les gens qui s'inquiètent des libertés numériques, c'est une situation qui n'est pas acceptable et donc ils décident, par diverses méthodes, plus ou moins approuvées. Les fabricants ont tendance à l'approuver sur les téléphones Android. C'est pas le cas pour Apple, par contre. Les gens font des manœuvres pour router le téléphone pour devenir administrateur pour que le téléphone soit le leur.
C'était de mode au début d'Android, j'ai l'impression que c'est assez passé maintenant.
Exactement, et ça risque pas de s'améliorer puisque Google introduit deux choses. Le Play Integrity qui permet en fait qui vérifie différents éléments sur le téléphone, dont le fait que le téléphone ne soit pas routé. Et les applications peuvent exiger le niveau d'intégrité en question du téléphone et refuser de s'installer. Exemple d'applications qui sont apparemment de plus en plus concernées par ça, les applications bancaires.
Ou alors les applications de type Netflix, bourrées de DRM.
Exactement. Ou les applications de paiement par carte bancaire pour les gens qui payent par téléphone. Donc, non seulement on vous emmerde à demander à ce que vous ayez un espion sur vous en permanence, même pour les paiements comme ça, mais en plus, vous ne pouvez même pas avoir de contrôle sur l'espion. Quoi. C'est non, faites-nous confiance. Donc déjà, ça, quand je l'ai lu, moi, je l'avais mauvaise, mais j'ai envie de dire, est-ce mon problème ? Je n'ai pas de téléphone Android, je suis un paria, je m'auto-exclus, soit c'est une chose.
T'arrives plus ou moins à échapper à Android, en tout cas, à te débrouiller sans
je
Android.
Je survis sans, mais ça serait le sujet de plein d'équitations.
Si tu as décompilé un logiciel.
C'est ça peut prendre beaucoup de temps. C'est assez chiant. Le deuxième point, par contre, là, je l'ai mauvaise. C'est que Google a commencé à faire un changement. Ils ont décidé, alors, j'ai pas trop vu. Il n'y a pas d'annonce officielle, mais enfin si, il y a une confirmation officielle que c'est ce qu'ils faisaient. C'est très simple, ils ont décidé de restreindre Google Messages et les RCS aux téléphones non routés. Qu'est-ce que le RCS, tu vas dire ?
Le registre des commerces et des sociétés.
Et perdu, c'est pas loin. Non, c'est le successeur du SMS, le très, très fameux SMS. Alors comment marche le SMS ? C'est très simple, chaque opérateur mobile compatible avec les SMS, donc à tous... Voilà,
on va dans la norme GSM qui est rétrocompatible depuis...
Voilà. Et donc, chaque opérateur a un SMSC, donc un SMS Center, et donc les SMS arrivent là-bas à destination de votre ligne, et puis ben, lorsque le téléphone, le modem se connecte, il reçoit des messages qui sont les SMS. Fini. Marche bien. Simple. Mais
trop
simple. Exactement. Il faut pouvoir ajouter des petites icônes de réaction au message, il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir altérer les messages qui viennent d'être envoyés. Il y a plein de fonctionnalités qu'on attend maintenant des messageries instantanées et que c'est pas présent dans les SMS.
Très bien sans...
Oui, non, mais arrête, on va pas partir dans ce débat-là, on va passer pour des passéistes. Et donc, le RCS est apparu. C'est une norme nouvelle pour succéder au SMS. Google a commencé à l'implémenter. On a déjà parlé d'Apple qui refuse de l'implémenter pour l'instant, mais va le faire finalement parce qu'il risque de se faire taper sur les doigts, même aux États-Unis, c'est dire. Google a décidé de l'implémenter. Sauf que...
Donc ce serait une norme...
C'est une norme qu'il a implémentée depuis 4 ans, hein, déjà.
Oui, mais c'est-à-dire sans application spécifique, on s'enverrait en connaissant juste le numéro de téléphone portable sans avoir de liste de contacts, ce genre de choses.
Exactement. Mais... Et c'est là que se trouve la puputerie que j'ai découvert à ce moment-là. Depuis 2020, à peu près, tout le monde envoie des messages en RCS. J'ai fini du coup par comprendre pourquoi je recevais des fois des messages de gens, des « j'aime », guillemets, à et le nom d'un message que j'avais mis au-dessus.
Est-ce que ça reste rétrocompatible avec le
c'est
SMS ?
C'est le rétrocompatibilité avec le SMS parce que moi, je suis pauvre fou, je n'ai pas un téléphone Android, je n'ai pas RCS. Soit. Google a décidé d'interdire le RCS aux gens qui avaient des téléphones Android routés. C'est pupute, ça n'a pas de justification technique, quoique, mais c'est leur problème. Par contre, en creusant, je me suis dit, tiens, mais comment ça marche RCS ? Est-ce que moi, je pourrais l'avoir sur mon téléphone ? Et là, par contre, j'ai eu mal. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec RCS. Le RCS est venu, c'est une nouvelle norme qui est arrivée après les smartphones. Et Google a dit, ah ben... On a un problème, les opérateurs qui ont implémenté RCS, ils l'ont implémenté tous avec des subtilités d'implémentation différentes. Ça va pas le faire, ça va être très compliqué de faire un logiciel qui soit compatible avec tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Bien, c'est très simple.
C'est Google qui décide de la norme ?
Non, ils ont fait pire que ça. En France, aujourd'hui, si j'ai bien compris, aucun opérateur ne supporte RCS.
pose moins de problèmes, du coup. Attends, tu me disais que tu envoyais des messages avec RCS, je ne comprends plus.
Voilà. C'est quoi la puputerie ? Eh bien, c'est qu'en fait, quand tu envoies, grosso modo, des SMS sur ton téléphone avec Google Messages, le message passe systématiquement par les serveurs RCS de Google. Quand j'envoie un SMS à quelqu'un, si le quelqu'un est sur Android, je m'en doutais déjà avant, mais c'est une certitude, le SMS part sur des serveurs de Google.
Tout dépend, du coup, de votre client SMS que vous utilisez.
Oui.
Souvent, alors ça concerne typiquement les gens qui ont un Android pur. En revanche, moi qui ai un Android d'une firme coréenne,
Je sais pas comment ça a été implémenté par cette entreprise nord-coréenne. Mais c'est un énorme problème, puisque est-ce qu'il y a la moindre incitation maintenant pour les opérateurs de téléphonie mobile à implémenter la norme ? Pourquoi se faire chier ?
Au passage, les messages transitent par Google alors que la priori ne devrait pas le faire.
Enfin, c'est bon, fais confiance à Google. Enfin, donc je l'ai vraiment mauvaise sur ce sujet-là. Parce que moi, je tiens à ma vie privée, j'ai pas de téléphone Google, c'est un choix. Et en fait, j'ai perdu. Demain ou dans 10 ans, on va dire le SMS s'est déprécié, maintenant c'est fini, monsieur. Et puis moi, je vais être là et je vais dire au revoir. J'ai déjà dû faire ça sur Jabber parce que ça a été abandonné par tout le monde, je vais continuer à le faire sur les SMS aussi, ça va être bien. Ah.
Je communique encore avec toi.
Tout à fait,
Jabber.
Oui. Mais j'ai plus grand monde.
Les deux derniers utilisateurs de JabberFR.org.
Jabber.fr. JabberFR.org, ils sont morts depuis longtemps, il me semble, cela. Bref, c'est assez triste. Mais
vous pouvez rester IRC sur Liberatia, d'ailleurs. Dièse Stinux, si vous voulez intervenir.
Pendant l'émission. Et j'ai une deuxième utilisation triste après.
Alors, celle-là, c'était la pas trop triste.
Ouais.
On revient en France avec le CNRS qui veut donc encourager le fait de pouvoir générer du revenu avec le logiciel libre, puisque le CNRS, comme beaucoup d'organismes de recherche, développe du logiciel et contribue à du logiciel libre. Tu parles, Pierre, régulièrement dans cette émission des difficultés qu'il y a à gagner de l'argent et donc moins vivre de revenus développeurs en faisant du logiciel libre. Alors le CNRS, donc via le programme Open, propose des pistes. Honnêtement, tu crierais à l'open source, voire à pire, puisque les deux pistes que je vois, c'est de créer une communauté privée donc qui aurait des avant-premières, ou alors une freemium, le modèle freemium où du coup on vendrait une brique propriétaire enrobée de logiciels libres. On sait que gagner sa vie avec le logiciel libre,
c'est pas facile. Et là c'est clairement, ils disent c'est pas possible, faites de l'open source. Voilà. C'est assez limpide, finalement. C'est triste. Il n'y a juste pas grand-chose d'autre à en dire. Ils n'ont pas compris le principe du logiciel libre, effectivement. Alors, le logiciel libre n'est pas
incompatible. C'est aussi dans le cadre de devoir monétiser les productions publiques.
Oui,
C'est un cadre plus large que...
Et doit-on monétiser une production publique qui a été créée avec l'argent des impôts ? Encore un autre débat.
On n'aura pas ici.
Non,
on n'a pas trop le temps.
On ne pourrait pas faire une émission d'extrême gauche un jour.
On va parler sortie de logiciel libre pour se donner un petit peu de baume au cœur. Donc Plasma 6 est sorti, Pierre.
Oui, Plasma 6.
Toi qui es un fervent supporter de KDE.
Depuis la version 2.0. 23 ans.
Il y a un peu de pédanterie dans le ton quand même là, sans vouloir vous enfoncer.
Oh, désolé, c'était pas fait exprès. Donc non, sortie de KDE 6, donc KDE 6, ils sont deux grands environnements de bureau sous Linux, il y a GNOME et KDE, donc c'est les interfaces graphiques que vous voyez. Je me souviens, à l'époque, en école d'ingénieur, je choquais des camarades de classe en disant que moi je m'en foutais que ce soit Linux ou BSD ou un autre noyau sur ma machine tant que j'avais mon interface KDE au-dessus. Mon Dieu, c'est pas possible.
Au bûcher,
hérétique, alors que non, tant que c'est du logiciel libre en dessous et que j'ai mon interface que j'aime, tout va bien. Bref, Plasma 6 est sorti. Alors c'est une mise à jour vraiment majeure, avec à la fois donc toute la pile technique qui a été mise à jour, parce que nouvelle version de bibliothèque logicielle sous-jacente, voilà, ils font une mise à jour majeure pour dire que il y a des changements de compatibilité. On peut toujours faire tourner des applications de KDE 5 sur KDE 6, évidemment. Et gros changement sur l'interface graphique, puisque, alors ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, la pile graphique sous Linux est en cours d'évolution. Et là aussi, c'est une transition vers Wayland. Des améliorations d'ergonomie un peu partout, beaucoup de corrections sur... Ben, toujours. En fait, ils ont une tendance ces dernières années à corriger des tas de petits points à chaque fois, donc rien de notable, rien qu'on puisse dire, mais en fait, à chaque fois, quand on voit ça débarquer, quand on voit les améliorations, on fait « Tiens, c'est mieux, mais j'arrive même pas à dire pourquoi. » Alors, j'ai pas encore eu le temps de faire la migration parce que juste j'ai pas encore redémarré de mon PC depuis un mois et demi. Donc, faudra que je le fasse à l'occasion pour voir à quoi ressemble donc Plasma 6. Mais voilà, c'est amélioration de performance un peu partout, amélioration de. Diminution de la consommation de processeur. C'est une interface un peu plus claire par endroit, mise à jour aussi de l'interface pour mobile, mise à jour de toutes les applications. Bref, c'est un bon gros paquet de mises à jour. Et la mise à jour a pas mal de succès puisque ils ont un gros pic de rapports de bugs, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça ne veut pas dire que c'est tout pété et que ça ne marche pas. C'est juste dire qu'il y a plein de gens qui l'utilisent et la première sortie stable d'un logiciel, malheureusement, dans le monde du logiciel libre, il n'y a pas assez de gens pour tester. Donc, c'est les premiers utilisateurs qui le savent. De toute façon, ils savent qu'ils testent un peu, ils testent quelque chose qui marche, mais ils savent qu'il peut y avoir des bugs. Et donc là, il y a pas mal de rapports de bugs. Et ça, c'est très positif. Ça veut dire que les gens l'utilisent et sont assez enthousiastes pour faire les rapports de bugs. Et si vous vous êtes intéressé, il y a des tas de distributions qui existent. Alors, la principale pour tester KDE, c'est la distribution Neon de KDE. Vous mettez ça sur une clé USB, vous testez sur votre ordinateur en boutant simplement dessus, ça ne va pas toucher votre disque dur.
Sinon, KDE est livré
et sinon, c'est livré.
Principale distribution.
Mais l'intérêt de Neon, c'est que tu testes KDE 6 sans toucher ta distribution.
C'est
pas con.
On termine avec Microsoft.
Oui.
Bah oui, tiens, pourquoi pas. Qui abandonne le Windows Subsystem for Android. Je ne sais pas qu'il existait celui-ci.
Bah si, on en parlait dans l'émission il y a 5 ans, je crois.
Il y a 5 ans ?
Quelque chose comme ça. Non, 3 ans seulement, celui-là. Il n'a pas vécu longtemps, celui-là.
En 3 ans, c'était il y a 70 émissions, Pierre.
C'est ça. Alors non, en fait, alors, j'ai vu une blague par rapport à cette actualité que je vais vous traduire en direct instantané.
En direct approximatif.
C'est ça.
Non, donc, vrai direct, mais une prédiction approximative.
À chaque fois que Microsoft propose une solution pour développer des applications Windows qui ne soient pas Win32, donc le système de développement historique de Windows, vous pouvez être certain que ça va mourir au bout de quelques années. C'est pas effectivement la première fois que Microsoft fait ça, il y en a déjà eu au moins 3-4, je pourrais reciter les acronymes, mais plus la signification parce que c'est, faut pas déconner. Et c'est, voilà, en fait, ils avaient mis sur Windows 11, ils avaient annoncé en fanfare, ils avaient dit, ouais, c'est trop bien, vous allez pouvoir lancer des applications Android sous Windows, parce que comme ça, ça va être trop bien. Pas trop compris, parce que déjà, moi, je peux le faire sous Linux, mais c'est très chiant parce que t'as pas accès à Google Play, au Play Integrity, aux applications bancaires, ce genre de choses.
En général, vous appliquez. Enfin, en gros, il y a quoi comme application Android ? Des choses qui. Quand vous y accédez depuis un ordinateur, c'est depuis un navigateur. Enfin, un ordinateur, c'est depuis un navigateur web.
Alors, je vais te reprendre là-dessus. Les applications bancaires, ça commence à me poser problème. Parce que si ouais. T'as pas ton application bancaire sur l'une de mes branques, ouais. Si je daignais avoir un téléphone Android comme tout le monde, je pourrais avoir ajouté un émetteur, un bénéficiaire dans mes virements et lui faire un virement sans attendre 72 heures.
Ah oui, ce genre de choses, oui.
Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Oui,
on vient te casser les couilles. Ouais. On t'interdit pas, t'es pas exclu. Non, mais venez, y a pas de problème. Vous avez le choix, mais on va vous emmerder. Vous n'avez pas le choix. Bref.
Je voulais te dire qu'en fait, il y a assez peu de valeur ajoutée à mettre une application Android sous Windows.
Microsoft en avait vu suffisamment pour proposer ça, puis finalement, ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Et là aussi, une blague, c'est que tous les gens qui avaient pris les applications, et pour certains qui avaient payé les applications, vont voir le support disparaître. Voilà. Et donc, à partir du 5 mars 2025, donc dans un an, fini, ça ne marchera plus. Bisous.
La troisième partie des actualités, c'est juste après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter The Different Boy. Vous écoutez les Codes Inou sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
scroll on my brain. Oh, please come back. I cannot breathe and you're killing me. I need to scratch out everything. Put a scroll on me, put a scroll on me, put a scroll on me. It was all for you. I could have tried to save you.
C'était The Different Boy. Vous écoutez les codes IGNOU sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités et il y a de la pomme.
Voilà, on va faire une compote.
C'était pas la réponse attendue. C'est pas grave.
Désolé. On va parler d'Apple. Ouais, trop bien, oui. Il y a eu plein d'actualités. On commence par laquelle, Alexandre ?
Pour faire suite à une annonce de je sais plus si c'était la dernière mission, celle d'avant.
Les deux.
Les deux, vous disiez qu'on a quand même parlé. Et donc, Apple avait donc décidé de bannir en Europe les web applications. Et au final, ils ont dû faire machine arrière.
Tout à fait. Entre-temps, je suis retombé aussi sur des actualités qui reprennent les premières annonces de l'iPhone. L'annonce du premier iPhone, c'était « Regardez, c'est trop bien, vous pouvez développer des applications web et les faire tourner sur l'iPhone. » Parce que c'était ça qui était mis en avant à l'époque sur le premier iPhone. Hein. Donc, on a fait un sacré bout de chemin depuis. Ils ont bien rétro-pédalé. Et donc là, ils ont à nouveau rétro-pédalé. Il y a commencé à y avoir l'Europe qui a commencé à leur dire « Dites-vous, vous n'êtes pas en train de vous foutre de notre gueule, là ?» Et donc Apple qui a dit « Non, c'est bon. C'est bon, les applications web, elles vont continuer de marcher en Europe sur la prochaine mise à jour d'iOS. Promis. » Voilà, ça, c'était du chantage. Je pense qu'ils ont essayé de tâter le terrain pour voir à quel point ça pouvait passer leur saloperie. Ils ont peut-être dû se rendre compte que ça a beau ne pas être interdit par la loi, quand tu montres que tu te fous de leur gueule, le juge, il va pas forcément être d'accord.
Ça va dire autant de bien de l'Europe. Les partisans du cinglé d'Asselineau qui vont dire qu'on fait un complot européiste.
Ah oh, putain, ouais, j'ai envie de les voir manifester.
Ouais,
ah,
ouais. Devant Radio Campus.
Ils vont être trois pelés. Vous avez de bien.
Et ils seront quatre, du coup, et ils ont augmenté leur effectif de 33%.
Ah putain, merde, j'étais pas au courant. Ouais, mais c'est pour toute la France, donc il faudra qu'ils organisent le voyage et tout, ça va leur faire coûter cher. Puis en plus, ils peuvent pas payer en francs à SNCF, ils vont pas pouvoir venir.
Apple va simplifier la migration d'iPhone à Android.
Comment ça se fait ?
Peut-être parce qu'ils sont obligés.
Ah bah ouais, c'est incroyable. Tu veux dire que l'Europe arrive à imposer des choses aux entreprises ? Non. C'est une blague.
Alors que la France toute seule, elle y arriverait vachement.
Oui, la France.
Moi, j'ai toute confiance en Bruno Le Maire.
Non, tu peux. Non, Alexandre, je sais qu'on est à la radio. Mets un panneau. Je vais dire Bruno Le Maire. Préviens que tu vas dire des blagues.
Moi, j'ai toute confiance en Bruno Le Maire pour imposer.
Le col roulé. Non, voilà. Donc, plus sérieusement, oui. Suite aux règles européennes, ils ont dit, là, on va être obligé de permettre plus facilement la migration de vos données d'un iPhone à un téléphone non iPhone. C'est incroyable. On n'a plus le droit de vous emprisonner.
Apple ferme le compte d'Epic Games, mais le remet en place en Europe.
Oui, ça aussi, je trouve ça tellement magnifique. Alors, donc, Apple a décidé de fermer le compte développeur d'Epic Games. Epic Games, qui est en litige avec Apple depuis un certain temps. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est parce qu'ils disent, là, Apple se fout de notre gueule. Leurs conditions sont impossibles à gérer. C'est les 30% de taxes, c'est du vol. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute, etc. Ça passe pas. Gros litige entre eux.
Tu as le droit au gros mot parce que c'est une citation.
Exactement. Merci Alexandre d'avoir reconnu ce droit. J'en abuserai volontiers. Et donc, là je suis calme encore par rapport à après. Et donc, en Europe, ils ont dit finalement vous avez le droit encore vous. Epic Games a encore le droit de développer des applications en Europe, mais plus ailleurs dans le monde. Leur compte est banni ailleurs, mais en Europe, comment ça, ça va pas le faire? Parce qu'effectivement, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de discrimination arbitraire. Et c'est là où c'est important, en fait. Apple, ça m'arrache ce que je vais dire, parce que c'est pas la vraie définition, mais un service comme l'App Store, c'est en quelque sorte un service public, dans le sens où c'est pas un service qui peut être lié aux intérêts commerciaux d'une entreprise. Sinon, ça crée un conflit. Imaginons, Apple, demain, sorte une voiture, projet qu'ils ont annulé la semaine dernière, qu'est-ce qui les empêcherait de bloquer, de ralentir, de faire chier, tout simplement, toutes les applications de constructeurs de voitures concurrents pour que seule la voiture Apple soit trop bien à utiliser avec un téléphone Apple.
Allez, on finit Apple et l'Europe.
Oui,
18 milliards d'euros.
18 carrément.
1,8.
Ah, c'est
pardon.
L'inflation, là. Ouh. Oui, 1,8.
Ils seraient foutus de la payer et ça leur ferait même pas mal.
Oui,
1,8 milliard d'euros.
Putain, arrête.
Infligé par l'Union européenne.
Oui, pour abus de position dominante sur le.
Cash, je crois.
Ouais, non, ça fait mal. Et donc oui, abus de position dominante d'Apple sur le streaming musical, donc diverses pratiques, etc. Alors Apple va faire appel, évidemment, ou plutôt Apple va faire appel, je sais plus dans quel sens. Et donc Spotify se réjouit. Et entre temps. Il y a une petite communication d'Apple que je trouve vraiment mignonne. Donc, Apple est sorti de sa réserve pour parler de la situation par rapport à Spotify, et ils ont dit que... Alors, je vais citer...
En tout cas, ils ont dit des trucs.
Je vais citer, parce que c'est tellement gros. Nous sommes heureux de soutenir le succès de tous les développeurs, y compris Spotify, qui est la plus importante application de streaming musical au monde. Spotify ne paye rien à Apple pour les services qui l'ont aidé à créer, mettre à jour et partager son application avec des utilisateurs Apple dans 160 pays à travers le monde.
C'est plus une question de foutage de gueule, c'est de la politique.
Ouais, mais je trouve que c'est vraiment...
Pierre, on a assez parlé d'Apple, parlons un petit peu de Microsoft.
Oui,
et Atlanta, qui demande donc à Microsoft de restituer un terrain qui avait été cédé en 2021 sous la promesse de créer 15 000 emplois.
Oui, alors... Avis à Bruno Le Maire, Emmanuel Macron,
si tu te souviens,
François Hollande.
En 2009 a été inauguré Aura Technologies.
Oh non.
Microsoft était l'invité vedette et avait promis de créer des dizaines, des centaines d'emplois en formant des chômeurs. Alors si je regarde donc sur le site Compass, Microsoft France à Lille, l'établissement effectif à l'adresse entre 0 et 9 employés.
Tu peux pas... Non, t'as pas le droit, c'est une entreprise, il faut créer, il faut aider les entreprises. Donc non, petit cours de politique apparemment, mais merci les États-Unis de faire un cours de politique non libérale, c'est incroyable. Donc oui, la ville d'Atlanta avait aidé Microsoft en leur facilitant l'acquisition d'un terrain, contre 15 000 emplois. Microsoft fait près des emplois, que fait la ville d'Atlanta? Il récupère le terrain. Incroyable. Alors, petite astuce, si vous cherchez 10 milliards d'euros d'économie, il y a un truc qui s'appelle le CICE qui était contre la création d'un million d'emplois, je crois qu'on les a jamais vus. Mais, petite astuce.
T'es pas entrepreneur, Pierre, tu peux pas comprendre.
Ah, je peux, c'est ça, je sais pas. J'ai pas le bon esprit.
Court morceau de musique avant une longue délicalisation, Night
ouais.
Woodpeckers, Tillerman. Vous écoutez Côté Gnous sur Radio Campus, en télévision, c'est la radio numérique terrestre et campusil.com. Hop là, machin.
Time I saw her, she played sax with a band. She looked so funny that I could barely stand. Time only turned out she felt the same. My singlet was to blame. Still I'm her man. She's a wrench, she knows it. She's glitchy as hell.
When she wakes up, I sleep tight. When she's bad, I'm well. She'd cackled me every other day. I'd cheat and date her friend. Still, I'm her man. That's how it goes. Saw the one for the money, saw the two for the show. We're tire, a bunker, wrenched up cell. We're hammer and nail, still I'm her man.
Still he's her man.
Well, that's
still he's her man.
I perfectly know that.
Still he's her man.
Go play sax with your band, girl.
Still he's her man.
I fell aswear the time we had. Every time I spent, still I'm her man.
C'était Night Woodpeckers, Still a Man. Vous écoutez les Codes Ignous sur Radio Campus, 106,6 la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. Et cette fois-ci, c'est la vraie, c'est la dégeekalisation de l'émission 269.
Remonte de merde.
Bis repetita placent.
Oui, parce que là, celle-là, elle va être fun. On va parler de pixels, de fréquences, de bandes passantes et de FDP, qui n'est pas du tout une abréviation spécifique au monde de l'image et du
qui
câble.
Qui n'est pas le Parti libéral-démocrate allemand.
Non, mais qui est plutôt en lien avec les voleurs et ceux qu'on n'aime pas non plus. Donc, parlons HDMI. Parce que, alors, je crois que j'ai déjà parlé de ma haine viscérale pour ces nouvelles technologies. Parce que c'est quand même des technologies avec des bonnes débilités dedans. Mais là, on a atteint un nouveau niveau. Alors, pour commencer, parlons mathématiques et parlons bande passante. Juste pour expliquer de quoi qu'on cause.
Partez pas. Hein.
Non, partez pas, ça va être très simple. Parce que là, je vais simplifier les calculs, parce que sinon ça va être un peu chaud. Je vais pas parler des problèmes de compression, etc. qu'on peut introduire là-dedans. Prenons un écran qui affiche une image de votre ordinateur. Donc votre écran, imaginons, on va simplifier les calculs. Il fait 10 pixels par 10 pixels. Chaque pixel peut afficher 10 couleurs. Donc jusque-là, nous avons 10 par 10 par 10. Nous avons 1000 informations pour une image. Maintenant, on va rajouter un critère. Il y a 10 images par seconde. Nous sommes à 10 000 bits par seconde. Voilà. Simple. Très simple. C'est tout ce que nous avons en mathématiques à avoir comme base. Je vous l'ai fait en base 10. Avec les écrans, c'est un peu plus compliqué. Et deuxième phénomène, vous avez entendu parler de la fausse HD, de la HD, de la HD+, de la 4K, de la 8K, etc. Alors, le truc important à savoir, quand on passe de la HD, donc 1920 par 1080, quand on passe de la HD à la 4K, qu'est-ce qu'on a fait sur le nombre de pixels, Alexandre? On l'a augmenté de 50%, de 100%, de 150% ou de 400%? De 300%, pardon.
Je ne sais plus.
De 300%, on a multiplié par 4. Parce qu'on a doublé la largeur, mais on a aussi doublé la hauteur.
Oui.
Et donc, on a multiplié par 4 le nombre de données à transmettre pour alimenter cet écran en images. Fin des mathématiques. Quelle est la conséquence de tout ça?
Il y a plus de données à faire passer.
À plus de données, il y a besoin d'un plus gros tuyau. Et le tuyau, c'est un câble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des nouvelles normes au fur et à mesure qui arrivent. Vous avez peut-être déjà eu, alors moi j'ai déjà eu le plaisir d'avoir cette blague, vous branchez un appareil à un téléviseur, par exemple, avec un câble HDMI, l'appareil s'initialise, en l'occurrence c'était la box d'un opérateur français, je ne sais plus lequel. Il affiche un message, oui, initialisation en cours, mise à jour, il redémarre, écran noir. Parce que ben, vous avez branché un appareil HDMI 1.4 ou plus, avec un téléviseur HDMI 1.4 ou plus, avec un câble HDMI 1.3. C'est pas écrit sur le câble. Donc démerdez-vous, hein, c'est impossible de savoir. Bravo, vous avez tout compris, ceux qui ont fait la norme HDMI, d'avoir déjà permis ce genre d'hérésie. Mais ils sont allés très très loin récemment, et là ça me met hors de moi. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. AMD est un développeur de cartes graphiques et de processeurs. Et c'est celui qui a le plus travaillé sur la possibilité d'utiliser du logiciel libre avec leurs cartes. C'est-à-dire que si vous avez une carte graphique AMD, vous n'avez que du logiciel libre sur votre ordinateur. Vous gérez la carte graphique. Dans la carte graphique elle-même, il y a du firmware propriétaire, parce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle ou autre. Même là-dessus, petite parenthèse dans la déguisation, il n'y a pas longtemps, il y a une entreprise d'intelligence artificielle qui s'est plainte publiquement en disant à AMD que ça, quand même, ça les fait chier le bout de firmware propriétaire là, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir l'analyser et l'optimiser pour leurs besoins. Et AMD a répondu, on va regarder quand même, ça pourrait être intéressant. Ils n'ont pas fermé la porte, c'est AMD, ils sont vraiment là-dessus, ils sont plus que réglo. Et là, AMD, ils se sont retrouvés un peu coincés. Ils étaient avec la norme HDMI 2.1 qu'ils voulaient implémenter. Et le forum HDMI, donc, qui gère la norme, leur a dit « compliqué ». Et AMD leur a fait la démonstration qu'on pouvait l'implémenter en logiciel libre sans bloquer, sans enfreindre la norme, sans enfreindre les contraintes de sécurité qui ont été imposées. Et le forum HDMI 2.1 a regardé leur implémentation et leur a dit « Allez vous faire foutre. L'HDMI 2.1 est interdit en logiciel libre. » Voilà, ça s'arrête là. Vous n'avez pas le droit d'implémenter HDMI 2.1 en logiciel libre. Pardon ? Moi, celle-là, je la saisis pas, de blague. Honnêtement, je comprends pas. Donc, aujourd'hui, pour les non-gamers, les non-joueurs, c'est pas critique. Dans le sens où, la norme HDMI 2.1, c'est nécessaire pour atteindre des très hautes fréquences sur de la 4K. Alors, des très hautes fréquences du 240Hz en 4K, c'est déjà...
Oui, mais ce qui n'est pas utilisé actuellement par le public, ce sera peut-être...
Pardon, en plus, non, j'ai mal lu le tableau. Non, ça commence déjà à être nécessaire en 4K, en fait. En 4K, on est limité à 60Hz. On a une perte en couleur pour monter à 120Hz.
Bon, après, ça arrive aussi que des innovations à ce niveau-là se fassent des flops et qu'au final, on reste sur la norme inférieure parce que ça ne sert pas à grand chose.
Oui, mais
ça sert pas à grand monde.
Ça sert pas à grand monde, mais c'est quand même quelque chose qui va se développer. Et en fait, tout ça, c'est banni, terminé, bye bye. Et là où je suis encore plus furax, avant de faire cette émission, je me suis tapé tous les afficheurs d'un site web, tous les vidéoprojecteurs, il n'y en a aucun qui supporte autre chose que l'HDMI. Et je suis allé voir du côté des écrans gaming, j'ai pris des écrans gaming parmi les plus chers, je suis tombé sur un écran qui gère le HDMI 2.1 et qui propose une alternative, le DisplayPort, pour gérer l'affichage. Eh bien, le HDMI 2.1 gère la résolution complète de l'écran, fréquence d'affichage, etc. DisplayPort 1.4, donc vous êtes limité à une fréquence bien inférieure, mais pas parce que DisplayPort ne le gère pas, c'est juste qu'ils n'ont pas mis une puce plus récente. Bombe de merde.
Merci Pierre pour ce coup de gueule.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.